Philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, 26 février 1998 à Saint-Jodard.
Excusez du retard, mais quand il y a un chapitre, on devrait pouvoir se piloquer. Je ne sais pas, ce serait très drôle d'avoir le début d'un cours en bilocation. Je n'ai pas l'expérience, là je peux pas vous le dire. J'ai jamais pu interroger de mon vivant des personnes qui avaient la bilocation. Ça m'intéresserait au point de vue charismatique. Et ce serait intéressant au point de vue philosophique. Qu'est-ce que ça représente? Ce serait pas la distinction de l'acte et de la puissance. Ce serait la distinction de deux actes. Mais comme on fait des découvertes scientifiques très étonnantes aujourd'hui, au point de vue de la génération, des hypothèses, des interrogations. Oui, c'est très intéressant comme exemple d'interrogation scientifique de prendre ce qui se pose aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est imaginaire? Est-ce que c'est une véritable interrogation? Alors là, ce serait point de vue critique. Quelles sont les conditions nécessaires pour une véritable interrogation? Il faudrait faire ça comme appendice à la thèse sur les degrés du savoir. J'aimerais beaucoup ça. Parce que pour moi, je crois que l'interrogation est capital. On l'a dit psychologiquement, vous savez, que l'enfant pose des quantités d'interrogations tant qu'il ne va pas à l'école. Et dès qu'il va à l'école, il n'en pose plus. C'est désastreux pour l'école. D'où l'école, la méthode Montessori, pour éduquer, laisser l'enfant interroger. Ce fait que je vous dis, n'hésitez pas à poser des questions. N'en posez pas pendant le cours. Parce que ceux qui ne la posent pas ne sont pas assez enfants pour épouser l'interrogation de celui qui pose. Alors ils disent, c'est une perte de temps. Alors on les pose par écrit. Mais c'est à froid. Or un forgeron sait qu'à froid, on ne peut plus rien faire. C'est vrai. Quand notre intelligence est devenue de l'acier avec Descartes, l'univocité fait de notre intelligence de l'acier. Et pour la chauffer, pour que on puisse torturer l'acier. Parce qu'il faut torturer l'acier. Et l'acier n'aime pas d'être torturé. Il se venge. C'est très curieux tout ça, mais il faut essayer de le comprendre. Parce que je crois qu'un des grands mâles d'aujourd'hui, c'est de ne plus comprendre que l'interrogation, la véritable interrogation, pas écrire une interrogation, mais une porte en soi, c'est le feu de l'inspiration, vraie ou fausse, c'est le feu de l'inspiration qui vient réchauffer notre intelligence univoque depuis Descartes et avec Descartes. Une terrible université. Alors c'est ce qu'on enseigne partout. Hein. Descartes est le maître de la philosophie française. Et évidemment, le maître de la philosophie du monde. C'est bien évident. Donc, faisons attention. Je me suis posé la question. Quel était le genre d'interrogation en théologie? Quel est le mode d'interrogation en mathématiques? C'est de se poser ces questions-là. Point de vue, aujourd'hui, parce que le plus grand mal, c'est que on ne voit pas combien l'interrogation ouvre notre intelligence à la recherche. Alors, il y a des réactions violentes. Et Merleau-Ponty avait ce genre de réaction. Il était catholique et il le proclamait le jour où il a vu que les catholiques ne pensaient plus, que beaucoup de catholiques ne pensaient plus. Il a réagi. Il a dit, il n'y a qu'une seule chose de vraie, c'est la recherche. Et la philosophie, pour lui, n'avait qu'un seul intérêt, la recherche. Et alors, ses enfants gémissaient. Parce qu'au point de vue pédagogique, c'était désastreux. Sa fille, que j'ai rencontrée, qui avait 16 ans, m'a dit spontanément, c'est terrible d'avoir un père philosophe. Je lui ai dit pourquoi ? Parce qu'on ne le voit plus. Il cherche tout le temps. Peut remonter à l'infini dans l'ordre de la recherche. Alors vous savez que la clé de la démonstration au point de vue critique de Dieu, à l'égard de l'existence de Dieu, on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Or la recherche, on ne peut remonter à l'infini dans l'ordre de la recherche. Les enfants crient, ils n'ont plus le pain que leur père doit leur donner. Mais c'est un exemple très intéressant quand on l'a vécu, cet exemple-là, et qu'on comprend ça. Aujourd'hui, on ne vous dit jamais rien quand vous dites « je cherche ». C'est l'astuce. Quand vous dites que vous enseignez la métaphysique, ça prouve que vous avez découvert les principes propres de ce qui est en tant qu'il est. Et vous êtes capable de remonter jusqu'à l'existence d'un être premier. Ce qu'on ne tolère plus. C'est très important. De remettre en valeur l'interrogation et de comprendre, comme vous le disiez hier, l'interrogation au niveau métaphysique. Qu'est-ce l'être en tant qu'être? Qu'est-ce la ratio endis, la raison d'être, le principe? Ce principe propre, selon la détermination, selon la fin. Et Aristote nous donne les deux tremplins. Les deux tremplins. Touti en einain, en telegeo. Les deux tremplins qui peuvent être les deux murailles. De murs qui empêchent d'aller plus loin. On peut se replier sur le touti en einain. Au nom d'Aristote, qui voit que l'intelligence la plus parfaite, divine, ne peut que se contempler. Noésis, noéseos, la pensée de la pensée. Rien n'est plus parfait que la pensée de Dieu. Et donc, rien ne peut être plus parfait pour la pensée de Dieu que sa propre pensée. Ceci est exact de Dieu. Mais ce n'est pas exact de nous. On a toujours besoin d'un plus petit que soi d'une façon absolue. Si je suis univoque, je ne peux pas dire que le crapaud est plus que ma pensée. Parce que pauvre pensée alors. Mais d'une façon analogique, je peux dire que le crapaud a quelque chose que ma pensée n'a pas. C'est d'être crapaud. La pensée ne l'est pas. Parce que le crapaud, il existe. Petite bête du bon Dieu. Je sais pas ce que faisait Jésus en face du crapaud. Je sais pas. Je lui demanderai au ciel. Voyez, si ma pensée est analogique, je peux distinguer deux états de la réalité. La réalité en tant que vécue. La réalité en tant qu'elle existe avant que je la voie. Avant que je la pense. Et c'est ça qu'Aristote a découvert par le tutti enainae. Ce qui est premièrement pensé. Le tutti enainae. Mais on a fait en soi l'acuité. On l'a platonisé la quiétude, c'est considérer que c'est l'objet premier de ma connaissance, en oubliant que le tutti enainae provient d'une réalité, le tutti enainae, avant ma pensée. Et je crois qu'il faut que nous découvrions ça en face de la pensée hegélienne. Hegel est génial. Il a compris en tant que croyant que la pensée de Dieu c'était le modèle de toute pensée. Alors, si c'est le modèle de toute pensée, je veux l'appliquer. La seule question qu'il a oubliée, c'est que la pensée de Dieu n'est pas ma pensée. Aussi éloigné le ciel de la terre que les pensées de Dieu comme moi. Hegel, comme protestant, aurait dû se rappeler ça. Alors, tout croule. Château de cartes, tout croule. Une des choses les plus impressionnantes dans l'Apocalypse que Hegel aurait dû se rappeler, c'est l'enterrement de première classe de la Babylone. Il y a une liturgie d'enterrement qui est extraordinaire. Ce serait peut-être ça la réforme qu'il faudrait pour les enterrements comme ça. Les curés y viendraient. C'est vrai, il y a une liturgie extraordinaire. Les pleurs sur la Babylone. C'est assez extraordinaire de voir ça. Bon, pour le tutti enainae, c'est très clair. Pour la finalité, c'est beaucoup plus subtil. Parce que c'est de la dentelle bretonne. Alors c'est beaucoup plus subtil. Et pourtant, ça devrait être beaucoup plus évident dès qu'on dépasse la subtilité. Le entelecheia n'est pas l'ami. L'ami existe avant que je l'aime. Je ne peux pas aimer un possible, une réalité qui n'est que le possible. Le possible n'est pas bon. existence, si imparfaite qu'elle soit, le crapaud a sa bonté, que je vois mal, parce que je n'ai pas de vie commune avec lui. Si j'avais une vie commune avec le crapaud, je m'apercevrais qu'il est peut-être merveilleux comme défenseur, parce qu'on a peur de le toucher. Avec la petite grenouille, les cuisses de grenouille, on les mange. Alors, il n'a aucune défense. Tandis que si on vous sert les cuisses de crapaud, vous diriez tout de suite au restaurant, mettez en dessous cuisses de crapaud, et vous verrez combien on s'arrêtera devant vous. Tout le monde fuira. Mais faites fortune en prenant les cuisses de crapaud. C'est génial de la part d'Aristote d'avoir fait ça. Que l'amour que j'ai pour mon ami n'est pas le véritable amour. Le véritable amour, c'est de dépasser mon amour pour découvrir mon ami. C'est mon ami que j'aime.
Du Moyen Âge,
c'est le maître de ceux qui savent. Et c'est très beau ça, le maître de ceux qui savent. Et ceux qui savent, ce sont ceux qui comprennent que mon intelligence ne s'éveille que grâce au jugement d'existence et grâce à l'induction. La découverte des principes propres de ce qui est. Mais voyez, c'est une découverte très qualitative de mon intelligence. Ce n'est pas une découverte de ma raison. C'est le dépassement de la loi. C'est le dépassement de la relation. C'est la découverte du principe propre selon la forme, selon la fin. Et je ne vois pas d'autre possibilité de redécouvrir en philosophie le principe propre de ce qui est selon la fin. Découvrir la différence qui existe entre l'entelekeia et l'energeia. L'entelekeia, c'est mon amour pour mon ami. Et ce que je saisis en premier lieu dans ma conscience philosophique, dans ma conscience psychologique, c'est plus vrai, c'est l'amour que j'ai pour mon ami. Et comme c'est ce qui est premier, je l'isole. J'isole cet amour que j'ai pour mon ami, de mon ami. Parce que je suis beaucoup plus en connaturalité avec l'amour que j'ai pour mon ami que à l'égard de mon ami. Dans mon ami, il y a toujours quelque chose qui m'échappe. Il est plus âgé que moi, c'est pas étonnant, il y a une génération entre nous. Il est différent de moi. Pas étonnant, il a reçu une éducation tout à fait différente. Et ce qui est intéressant, c'est le jour où je comprends que si mon ami n'existait pas, l'amour que j'ai pour lui perdrait tout son sens. Ah, c'est grave ça. Est-ce que je suis convaincu de ça? Que l'amour que j'ai pour mon ami, si mon ami disparaît, il n'est plus mon ami. Mon amour que j'ai pour lui n'a plus de signification. C'est une expérience dure celle-là, parce que ça exige de me mettre dans une attitude relative à l'égard de mon ami. Je suis relative à lui. Ça exige de considérer qu'il y a quelqu'un qui passe devant moi. Et ce quelqu'un qui passe devant moi me dépasse, puisque c'est grâce à lui que je l'aime. Vous n'avez pas inventé par vous-même l'amour de l'ami. Si vous croyez ça, vous n'avez jamais aimé. Voyez, quand vous découvrez que l'amour que vous avez pour votre ami dépend de l'ami, vous ne pouvez plus considérer que la phénoménologie est une philosophie vraie. Et considérer que la phénoménologie relève d'une confusion terrible, la confusion de l'amour et de l'art. un ami n'est pas un idéal que j'ai fabriqué. Ce n'est pas une marionnette que j'ai inventée. C'est une réalité qui s'impose à moi. J'aurais pu ne pas le rencontrer. Mais je l'ai rencontré. Et souvent, je l'ai rencontré sans savoir le fruit de cette rencontre. Et donc, le hasard est avant la finalité. Quand Aristote découvre la finalité, il parle immédiatement après du hasard. C'est important, ça. Dès que je découvre la substance, je parle des accidents. Dès que je découvre la finalité, je parle du hasard. Et vous voyez bien pourquoi. Mon ami, je l'ai rencontré. Mais je l'ai rencontré par hasard. Dès que Sartre cherche à rencontrer Pierre au café, il n'est plus là. S'il ne cherchait pas, il l'aurait rencontré par hasard. C'est quand même très curieux, ça. Pourquoi le hasard existe-t-il? C'est parce que je ne suis pas un être qui connaît tous les autres êtres et qui les dirige. Le hasard n'existe pas pour Dieu. Et c'est la finalité qui prend tout. Tandis que pour moi, puisque l'ami me transcende, c'est vrai, il existait avant qu'il soit mon ami. Puisqu'il existait avant qu'il soit mon ami, il était en dehors de mon horizon. Je l'ai cherché qu'à partir du moment qu'il est devenu mon ami. C'est comme ça que ça se fait, vous savez. Même dans la vie commune, c'est très curieux. Quand un frère, une sœur, devient quelqu'un que j'aime, dans la charité surnaturelle, et que j'aime aussi avec sympathie, je me suis dit, c'est curieux. Je le rencontre tout le temps, et avant, je n'avais pas remarqué ça. Mais cette drôle de petite expérience, on est éveillé à son égard. Vous voyez, le hasard, je le domine d'une certaine manière grâce à la finalité. Et je m'aperçois du hasard que grâce à la finalité. Parce que c'est vrai, cet ami, je l'ai rencontré par hasard. Au coin d'une rue, au coin d'un couloir. Parce que j'étais en retard au son de la cloche. Je n'aurais pas rencontré autrement. Parce que lui était toujours en retard. Alors vous voyez, le hasard était doux. La bonne fortune. C'est ça les anciens. Puisque pour eux, tout était dans une lumière religieuse. La bonne fortune des dieux. C'était un jour faste. Et ce jour faste, j'étais en retard. C'est curieux. Tu as donc béni trop tard. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des choses comme ça dans ma vie. J'ai rencontré dans ma vie un frère qui était superstitieux. Il me l'a avoué que très longtemps après. Il avait très peur du 22. Tous les mois. Le 22, il sortait pas de sa cellule. Parce qu'il était sûr que le 22, il ferait de mauvaises rencontres. Et il croyait fermement. Parce qu'un jour, c'était le 22. Je le cherchais. Impossible de le trouver. J'ai dit, le lendemain, mais pourquoi? Hier, où est-ce que tu étais? C'était le 22 hier. Oui, oui. Et c'est à cause de ça que tu ne m'as pas rencontré. Parce que le 22, je ne veux rencontrer personne. Vous voyez comment l'aspect, la superstition joue sur le hasard. Quand je suis finalisé, il n'y a plus de superstition. Je dis ça parce que c'est intéressant pour nous de voir comment l'aspect religieux joue sur la finalité. C'est sûr. La vraie finalité, c'est d'adorer Dieu comme créateur. C'est d'adorer le Seigneur. Et quand Jésus fait le geste de l'esclave, alors qu'il est Seigneur, il montre qu'il est le maître du hasard. Ils iront avec quelque chose, l'ordre de sagesse. Et il invente un ordre de sagesse différent. Pour Judas, c'était le hasard. J'en suis sûr. Le mauvais jour. Rencontrer Jésus comme serviteur. Ça rompait complètement son schéma de jalousie. Il faut essayer de comprendre ces choses-là. Voyez, dans la physique d'Aristote, regardez bien la découverte de la finalité au niveau physique. C'est intéressant. Quand on l'a découverte au niveau métaphysique, on la découvre au niveau physique. Mais c'est très difficile de la découvrir au niveau physique, surtout aujourd'hui, avec les sciences physiques. Et immédiatement après qu'il découvre la finalité, il découvre le hasard. Et vous pouvez le comprendre quand vous remontez à l'origine de la rencontre de votre ami. Ce n'était pas prémédité. Et aujourd'hui, on est très sensible à ça. Il faudrait prendre des quantités d'exemples où on voit combien le hasard joue dans la mentalité de ceux qui n'ont plus le sens de la finalité. Et le hasard les dirige parce qu'on a besoin de s'appuyer sur quelque chose. C'est très étonnant. Ça, quand vous entendrez les confidences de ceux qui ne savent pas ce que c'est que la finalité et qui pourtant désirent faire les choses bien, n'ayant pas de finalité, on ne saura pas sur le hasard. Et pour nous, c'est intéressant parce que par là, on voit qu'on a besoin derrière. terriblement de la finalité. Pour unifier sa vie. Pour unifier une communauté. C'est la finalité. Quand on commence à tomber dans la superstition du hasard, on est dans la diaspora. Il n'y a plus d'unité. On se laisse mener comme des esclaves par le hasard. Et on doit dépister ça pour rétablir la vérité. Alors, l'entelegeia me permet de découvrir un principe propre selon la fin, qui est justement des valeurs. très bien comment on arrive à l'or. C'est plus grand que beaucoup d'autres aspects. Parce que les valeurs sont spirituelles. Ce sont des causes exemplaires. C'est l'aspect artistique où on essaie de comprendre que l'amour que j'ai pour mon ami, c'est la première des valeurs. Alors on a la philosophie des valeurs qui aboutit à dire que Dieu est la première des valeurs. Or, Dieu n'est pas la première des valeurs. Dieu est le bien suprême. Donc, c'est intéressant de voir la philosophie des valeurs comme un accident de parcours. Je m'arrête à ça. Y a-t-il l'analogue pour la découverte de la substance ? Je crois. C'est ce qu'on appelle l'ontologisme. Et ce serait intéressant d'étudier ces deux aspects-là. Malebranche, Le Sen, deux philosophes français, qui se sont arrêtés dans la recherche de la substance, dans la recherche de la fin. Oui, c'est toujours intéressant de voir les monstres. Le philosophe aime ça pour rechercher la vérité. Il y a un certain monstre de la finalité. Il y a un certain monstre de la substance. Ce sont deux points de vue qui, à la place de me conduire à la vérité, me permettent de m'arrêter dans la sincérité.